Chapitre 12. Distribution géographique. Les différences dans les conditions physiques ne suffisent pas pour expliquer la distribution géographique actuelle. Importance des barrières. Affinité entre les productions d'un même continent. Centre de création. Dispersion provenant de modifications dans le climat, dans le niveau du sol et d'autres moyens accidentels. Dispersion pendant la période glaciaire. Période glaciaire alternante dans l'hémisphère boréal et dans l'hémisphère austral. Lorsque l'on considère la distribution des êtres organisés à la surface du globe, le premier fait considérable dont on est frappé, c'est que ni les différences climatériques, ni les autres conditions physiques n'expliquent suffisamment les ressemblances ou les dissemblances des habitants des diverses régions. Presque tous les naturalistes qui ont récemment étudié cette question en sont arrivés à cette même conclusion. Il suffirait d'examiner l'Amérique pour en démontrer la vérité. Tous les savants s'accordent en effet à reconnaître que, à l'exception de la partie septentrionale tempérée et de la zone qui entoure le pôle, la distinction de la Terre en Ancien et en Nouveau Monde constitue une des divisions fondamentales de la distribution géographique. Cependant, si nous parcourons le vaste continent américain, depuis les parties centrales des États-Unis jusqu'à son extrémité méridionale, nous rencontrons les conditions les plus différentes. Des régions humides, des déserts arides, des montagnes élevées, des plaines couvertes d'herbes, des forêts, des marais, des lacs et des grandes rivières, et presque toutes les températures. Il n'y a pour ainsi dire pas dans l'Ancien Monde un climat ou une condition qui n'ait son équivalent dans le Nouveau Monde, au moins dans les limites de ce qui peut être nécessaire à une même espèce. On peut sans doute signaler dans l'Ancien Monde quelques régions plus chaudes qu'aucune de celles du Nouveau Monde, mais ces régions ne sont point peuplées par une faune différente de celle des régions avoisinantes. Il est fort rare, en effet, de trouver un groupe d'organismes confinés dans une étroite station qui ne présente que de légères différences dans ses conditions particulières. Malgré ce parallélisme général entre les conditions physiques respectives de l'Ancien et du Nouveau Monde, quelle immense différence n'y a-t-il pas dans leur production vivante? Si nous comparons dans l'hémisphère austral de grandes étendues de pays en Australie, dans l'Afrique australe et dans l'ouest de l'Amérique du Sud, entre les 25e et les 35e degrés de latitude, nous y trouvons des points très semblables par toutes leurs conditions. Il ne serait cependant pas possible de trouver trois faunes et trois flores plus dissemblables. Si d'autre part, nous comparons les productions de l'Amérique méridionale au sud du 35e degré de latitude avec celles au nord du 25e degré, productions qui se trouvent par conséquent séparées par un espace de 10 degrés de latitude et soumises à des conditions bien différentes, elles sont incomparablement plus voisines les unes des autres qu'elles ne le sont des productions australiennes ou africaines vivant sous un climat presque identique. On pourrait signaler des faits analogues chez les habitants de la mer. Un second fait important qui nous frappe, dans ce coup d'œil général, c'est que toutes les barrières ou tous les obstacles qui s'opposent à une libre migration sont étroitement en rapport avec les différences qui existent entre les productions de diverses régions. C'est ce que nous démontre la grande différence qu'on remarque dans presque toutes les productions terrestres de l'Ancien et du Nouveau Monde, les parties septentrionales exceptées, où les deux continents se joignent presque et où, sous un climat peu différent, il peut y avoir eu migration des formes habitant les parties tempérées du Nord, comme cela s'observe actuellement pour les productions strictement arctiques. Le même fait est appréciable dans la différence que présentent, sous une même latitude, les habitants de l'Australie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, pays aussi isolés les uns des autres que possible. Il en est de même sur tous les continents, car nous trouvons souvent des productions différentes sur les côtes opposées de grandes chaînes de montagnes élevées et continues, de vastes déserts et souvent même de grandes rivières. Cependant, comme les chaînes de montagnes, les déserts, etc., ne sont pas aussi infranchissables et n'ont probablement pas existé depuis aussi longtemps que les océans qui séparent les continents, les différences que de telles barrières apportent dans l'ensemble du monde organisé sont bien moins tranchées que celles qui caractérisent les productions de continents séparés. Si nous étudions les mers, nous trouvons que la même loi s'applique aussi. Les habitants des mers, de la côte orientale et de la côte occidentale de l'Amérique méridionale sont très distincts, et il n'y a que fort peu de poissons, de mollusques et de crustacés qui soient communs aux unes et aux autres. Mais le docteur Günther a récemment démontré que, sur les rives opposées de l'isthme de Panama, environ 30% des poissons sont communs aux deux mers. C'est là un fait qui a conduit quelques naturalistes à croire que l'isthme a été autrefois ouvert. À l'ouest des côtes de l'Amérique, s'étend un océan vaste et ouvert, sans une île qui puisse servir de lieu de refuge ou de repos à des migrants. C'est là une autre espèce de barrière, au-delà de laquelle nous trouvons, dans les îles orientales du Pacifique, une autre faune complètement distincte, de sorte que nous avons ici trois faunes marines, s'étendant du nord au sud, sur un espace considérable et sur des lignes parallèles peu éloignées les unes des autres et sous des climats correspondants. Mais séparées qu'elles sont par des barrières infranchissables, c'est-à-dire par des mers continues ou par des mers ouvertes et profondes, elles sont presque totalement distinctes. Si nous continuons toujours d'avancer vers l'ouest, au-delà des îles orientales de la région tropicale du Pacifique, nous ne rencontrons point de barrières infranchissables, mais des îles en grand nombre pouvant servir de lieu de relâche ou des côtes continues, jusqu'à ce qu'après avoir traversé un hémisphère entier, nous arrivions aux côtes d'Afrique. Or, sur toute cette vaste étendue, nous ne remarquons point de faune marine bien définie et bien distincte. Bien qu'un si petit nombre d'animaux marins soient communs aux trois faunes de l'Amérique orientale, de l'Amérique occidentale et des îles orientales du Pacifique, dont je viens d'indiquer approximativement les limites, beaucoup de poissons s'étendent cependant depuis l'océan Pacifique jusque dans l'océan Indien, et beaucoup de coquillages sont communs aux îles orientales de l'océan Pacifique et aux côtes orientales de l'Afrique, deux régions situées sous des méridiens presque opposés. Un troisième grand fait principal, presque inclus d'ailleurs dans les deux précédents, c'est l'affinité qui existe entre les productions d'un même continent ou d'une même mer, bien que les espèces elles-mêmes soient quelquefois distinctes en ces divers points et dans des stations différentes. C'est là une loi très générale et dont chaque continent offre des exemples remarquables. Néanmoins, le naturaliste voyageant du nord au sud, par exemple, ne manque jamais d'être frappé de la manière dont les groupes successifs d'êtres spécifiquement distincts, bien qu'en étroite relation les uns avec les autres, se remplacent mutuellement. Il voit des oiseaux analogues, leur chant est presque semblable, leurs nids sont presque construits de la même manière, leurs œufs sont à peu près de même couleur, et cependant, ce sont des espèces différentes. Les plaines avoisinant le détroit de Magellan sont habitées par une espèce d'autruche américaine, Rhea, et les plaines de la Plata situées plus au nord, par une espèce différente du même genre. Mais on n'y rencontre ni la véritable autruche, ni l'émue, qui vivent sous les mêmes latitudes en Afrique et en Australie. Dans ces mêmes plaines de la Plata, on rencontre la goutille et la viscache, animaux ayant à peu près les mêmes habitudes que nos lièvres et nos lapins, et qui appartiennent aux mêmes ordres de rongeurs, mais qui présentent évidemment dans leur structure un type tout américain. Sur les cimes élevées des cordillères, nous trouvons une espèce de viscache alpestre. Dans les eaux, nous ne trouvons ni le castor ni le rat musqué, mais le coipou et le capybara, rongeurs ayant le type sud-américain. Nous pourrions citer une foule d'autres exemples analogues. Si nous examinons les îles de la côte américaine, quelque différentes qu'elles soient du continent par leur nature géologique, leurs habitants sont essentiellement américains, bien qu'ils puissent tous appartenir à des espèces particulières. Nous pouvons remonter jusqu'aux périodes écoulées et, ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous trouverons encore que ce sont des types américains qui dominent dans les mers américaines et sur le continent américain. Ces faits dénotent l'existence de quelques liens organiques intimes et profonds, qui prévaut dans le temps et dans l'espace, dans les mêmes étendues de terre et de mer, indépendamment des conditions physiques. Il faudrait qu'un naturaliste fût bien indifférent pour n'être pas tenté de rechercher quel peut être ce lien. Ce lien est tout simplement l'hérédité, cette cause qui, seule, autant que nous le sachions d'une manière positive, tend à produire des organismes tout à fait semblables les uns aux autres ou, comme on le voit dans le cas des variétés, presque semblables. La dissemblance des habitants de diverses régions peut être attribué à des modifications dues à la variation et à la sélection naturelle, et probablement aussi, mais à un moindre degré, à l'action directe de conditions physiques différentes. Les degrés de dissemblance dépendent de ce que l'immigration des formes organisées dominantes ont été plus ou moins efficacement empêchées à des époques plus ou moins reculées, de la nature et du nombre des premiers immigrants, et de l'action que les habitants ont pu exercer les uns sur les autres au point de vue de la conservation de différentes modifications. Les rapports qu'ont entre eux les divers organismes dans la lutte pour l'existence étant, comme je l'ai déjà souvent indiqué, les plus importants de tous. Et c'est ainsi que les barrières, en mettant obstacle aux migrations, jouent un rôle aussi important que le temps quand il s'agit des lentes modifications par la sélection naturelle. Les espèces très répandues, comprenant de nombreux individus qui ont déjà triomphé de beaucoup de concurrents dans leurs vastes habitats, sont aussi celles qui ont le plus de chances de s'emparer de places nouvelles lorsqu'elles se répandent dans de nouvelles régions. Soumises dans leur nouvelle patrie à de nouvelles conditions, elles doivent fréquemment subir des modifications et des perfectionnements ultérieurs. Il en résulte qu'elles doivent remporter de nouvelles victoires et produire des groupes de descendants modifiés. Ce principe de l'hérédité avec modification nous permet de comprendre pourquoi des sections de genre, des gens entiers et même des familles entières se trouvent confinées dans les mêmes régions, cas si fréquents et si connus. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans le chapitre précédent, on ne saurait prouver qu'il existe une loi de développement indispensable. La variabilité de chaque espèce est une propriété indépendante dont la sélection naturelle ne s'empare qu'autant qu'il en résulte un avantage pour l'individu dans sa lutte complexe pour l'existence. La somme des modifications chez des espèces différentes ne doit donc nullement être uniforme. Si un certain nombre d'espèces, après avoir été longtemps en concurrence les unes avec les autres dans leur ancien habitat, émigraient dans une région nouvelle qui, plus tard, se trouverait isolée, elles seraient peu sujettes à des modifications, car ni la migration ni l'isolement ne peuvent rien par eux-mêmes. Ces causes n'agissent qu'en amenant les organismes à avoir de nouveaux rapports les uns avec les autres et, à un moindre degré, avec les conditions physiques ambiantes. De même que nous avons vu, dans le chapitre précédent, que quelques formes ont conservé à peu près les mêmes caractères depuis une époque géologique prodigieusement reculée, de même, certaines espèces se sont disséminées sur d'immenses espaces sans se modifier beaucoup, ou même sans avoir éprouvé aucun changement. En partant de ces principes, il est évident que les différentes espèces d'un même genre, bien qu'habitant les points du globe les plus éloignés, doivent avoir la même origine puisqu'elles descendent d'un même ancêtre. À l'égard des espèces qui n'ont éprouvé que peu de modifications pendant des périodes géologiques entières, il n'y a pas de grande difficulté à admettre qu'elles ont émigré d'une même région, car, pendant les immenses changements géographiques et climatériques qui sont survenus depuis les temps anciens, toutes les migrations, quelque considérables qu'elles soient, ont été possibles. Mais dans beaucoup d'autres cas, où nous avons des raisons de penser que les espèces d'un genre se sont produites à des époques relativement récentes, cette question présente de grandes difficultés. Il est évident que les individus appartenant à une même espèce, bien qu'habitant habituellement des régions éloignées et séparées, doivent provenir d'un seul point, celui où ont existé leurs parents. Car, ainsi que nous l'avons déjà expliqué, il serait inadmissible que des individus absolument identiques eussent pu être produits par des parents spécifiquement distincts. Centre unique de création. Nous voilà ainsi amenés à examiner une question qui a soulevé tant de discussions parmi les naturalistes. Il s'agit de savoir si les espèces ont été créées sur un ou plusieurs points de la surface terrestre. Il y a sans doute des cas où il est extrêmement difficile de comprendre comment la même espèce a pu se transmettre d'un point unique jusqu'aux diverses régions éloignées et isolées où nous la trouvons aujourd'hui. Néanmoins, il semble si naturel que chaque espèce se soit produite d'abord dans une région unique que cette hypothèse captive aisément l'esprit. Quiconque la rejette repousse la vera causa de la génération ordinaire avec migration subséquente et invoque l'intervention d'un miracle. Il est universellement admis que, dans la plupart des cas, la région habitée par une espèce est continue, et que lorsqu'une plante ou un animal habite deux points si éloignés ou séparés l'un de l'autre par des obstacles de nature telle que la migration devient très difficile, on considère le fait comme exceptionnel et extraordinaire. L'impossibilité d'émigrer à travers une vaste mer est plus évidente pour les mammifères terrestres que pour tous les autres êtres organisés. Aussi ne trouvons-nous pas d'exemple inexplicable de l'existence d'un même mammifère habitant des points éloignés du globe. Le géologue n'est point embarrassé de voir que l'Angleterre possède les mêmes quadrupèdes que le reste de l'Europe, parce qu'il est évident que les deux régions ont été autrefois réunies. Mais si les mêmes espèces peuvent être produites sur deux points séparés, pourquoi ne trouvons-nous pas un seul mammifère commun à l'Europe et à l'Australie ou à l'Amérique du Sud ? Les conditions d'existence sont si complètement les mêmes qu'une foule de plantes et d'animaux européens se sont naturalisées en Australie et en Amérique et que quelques plantes indigènes sont absolument identiques sur ces points si éloignés de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère austral. Je sais qu'on peut répondre que les mammifères n'ont pas pu immigrer, tandis que certaines plantes, grâce à la diversité de leurs moyens de dissémination, ont pu être transportées de proche en proche à travers d'immenses espaces. L'influence considérable des barrières de toutes sortes n'est compréhensible qu'autant que la grande majorité des espèces a été produite d'un côté et n'a pu passer au côté opposé. Quelques familles, beaucoup de sous-familles, un grand nombre de genres sont confinés dans une seule région, et plusieurs naturalistes ont observé que les genres les plus naturels, c'est-à-dire ceux dont les espèces se rapprochent le plus les unes des autres, sont généralement propres à une seule région assez restreinte, ou, s'ils ont une vaste extension, cette extension est continue. Ne serait-ce pas une étrange anomalie qu'en descendant un degré plus bas dans la série, c'est-à-dire jusqu'aux individus de la même espèce, une règle tout opposée prévalue, et que ceux-ci n'eussent pas, au moins, à l'origine, été confinés dans quelques régions uniques. Il me semble donc beaucoup plus probable, ainsi du reste qu'à beaucoup d'autres naturalistes, que l'espèce s'est produite dans une seule contrée d'où elle s'est ensuite répandue aussi loin que le lui ont permis ses moyens de migration et de subsistance, tant sous les conditions de vie passées que sous les conditions de vie actuelles. Il se présente sans doute bien des cas où il est impossible d'expliquer le passage d'une même espèce d'un point à un autre, mais les changements géographiques et climatériques qui ont certainement eu lieu depuis des époques géologiques récentes doivent avoir rompu la continuité de la distribution primitive de beaucoup d'espèces. Nous en sommes donc réduits à apprécier si les exceptions à la continuité de distribution sont assez nombreuses et assez graves pour nous faire renoncer à l'hypothèse, appuyée par tant de considérations générales, que chaque espèce s'est produite sur un point et est partie de là pour s'étendre ensuite aussi loin qu'il le lui a été possible. Et il serait fastidieux de discuter tous les cas exceptionnels où la même espèce vit actuellement sur des points isolés et éloignés. Et encore, n'aurais-je pas la prétention de trouver une explication complète? Toutefois, après quelques considérations préliminaires, je discuterai quelques-uns des exemples les plus frappants, tels que l'existence d'une même espèce sur les sommets de montagnes très éloignés les unes des autres et sur des points très distants des régions arctiques et antarctiques. Secondement, dans le chapitre suivant, l'extension remarquable des formes aquatiques d'eau douce. Et troisièmement, l'existence des mêmes espèces terrestres dans les îles et sur les continents les plus voisins, bien que parfois séparés par plusieurs centaines de milles de pleine mer. Si l'existence d'une même espèce en des points distants et isolés de la surface du globe peut, dans un grand nombre de cas, s'expliquer par l'hypothèse que chaque espèce a émigré de son centre de production, alors, considérant notre ignorance en ce qui concerne tant les changements climatériques et géographiques qui ont eu lieu autrefois que les moyens accidentels de transport qui ont pu concourir à cette dissémination, je crois que l'hypothèse d'un berceau unique est incontestablement la plus naturelle. La discussion de ce sujet nous permettra en même temps d'étudier un point également très important pour nous, c'est-à-dire si les diverses espèces d'un même genre, qui, d'après ma théorie, doivent toutes descendre d'un ancêtre commun, peuvent avoir émigré de la contrée habitée par celui-ci tout en se modifiant pendant leur émigration. Et si l'on peut démontrer que, lorsque la plupart des espèces habitant une région sont différentes de celles d'une autre région, tout en étant cependant très voisines, il y a eu autrefois des migrations probables d'une de ces régions dans l'autre, ces faits confirmeront ma théorie, car on peut les expliquer facilement par l'hypothèse de la descendance avec modification. Une île volcanique, par exemple, formée par soulèvement à quelques centaines de milles d'un continent, recevra probablement dans le cours des temps un petit nombre de colons, dont les descendants, bien que modifiés, seront cependant en étroite relation d'hérédité avec les habitants du continent. De semblables cas sont communs et, ainsi que nous le verrons plus tard, sont complètement inexplicables dans l'hypothèse des créations indépendantes. Cette opinion sur les rapports qui existent entre les espèces de deux régions se rapproche beaucoup de celle émise par M. Wallace, qui conclut que chaque espèce à sa naissance coïncide pour le temps et pour le lieu avec une autre espèce préexistante et proche à lui. On sait actuellement que M. Wallace attribue cette coïncidence à la descendance avec modification. La question de l'unité ou de la pluralité des centres de création diffère d'une autre question qui, cependant, s'en rapproche beaucoup. Tous les individus d'une même espèce descendent-ils d'un seul couple ou d'un seul hermaphrodite, ou, ainsi que l'admettent quelques auteurs, de plusieurs individus simultanément créés? À l'égard des êtres organisés, qui ne se croisent jamais, en admettant qu'il y en ait, chaque espèce doit descendre d'une succession de variétés modifiées, qui se sont mutuellement supplantées, mais sans jamais se mélanger avec d'autres individus ou d'autres variétés de la même espèce. De sorte qu'à chaque phase successive de la modification, tous les individus de la même variété descendent d'un seul parent. Mais, dans la majorité des cas, pour tous les organismes qui s'apparient habituellement pour chaque fécondation, ou qui s'entrecroisent parfois, les individus d'une même espèce, habitant la même région, se maintiennent à peu près uniformes par suite de leur croisement constant. De sorte qu'un grand nombre d'individus, se modifiant simultanément, l'ensemble des modifications caractérisant une phase donnée ne sera pas dû à la descendance d'un parent unique. Pour bien faire comprendre ce que j'entends, nos chevaux de course diffèrent de toutes les autres races, mais ils ne doivent pas leur différence et leur supériorité à leur descendance d'un seul couple, mais aux soins incessants apportés à la sélection et à l'entraînement d'un grand nombre d'individus pendant chaque génération. Avant de discuter les trois classes de fait que j'ai choisies comme présentant les plus grandes difficultés qu'on puisse élever contre la théorie des centres uniques de création, je dois dire quelques mots sur les moyens de dispersion. Moyens de dispersion. Sir C. Lyell et d'autres auteurs ont admirablement traité cette question. Je me bornerai donc à résumer ici en quelques mots les faits les plus importants. Les changements climatériques doivent avoir exercé une puissante influence sur les migrations. Une région, infranchissable aujourd'hui, peut avoir été une grande route de migration lorsque son climat était différent de ce qu'il est actuellement. J'aurai bientôt d'ailleurs à discuter de ce côté de la question avec quelques détails. Les changements de niveau du sol ont dû aussi jouer un rôle important. Un isthme étroit sépare aujourd'hui deux faunes marines. Que cet isthme soit submergé ou qu'il l'ait été autrefois, et les deux faunes se mélangeront ou se seront déjà mélangées. Là où il y a aujourd'hui une mer, des terres ont pu anciennement relier des îles ou même des continents, et ont permis aux productions terrestres de passer des uns aux autres. Aucun géologue ne conteste les grands changements de niveau qui se sont produits pendant la période actuelle, changements dont les organismes vivants ont été les contemporains. Edward Forbes a insisté sur le fait que toutes les îles de l'Atlantique ont dû être, à une époque récente, reliées à l'Europe ou à l'Afrique, de même que l'Europe à l'Amérique. D'autres savants ont également jeté des ponts hypothétiques sur tous les océans et relié presque toutes les îles à un continent. Si l'on pouvait accorder une foi entière aux arguments de Forbes, il faudrait admettre que toutes les îles ont été récemment rattachées à un continent. Cette hypothèse tranche le nœud gordien de la dispersion d'une même espèce sur les points les plus éloignés et écarte bien des difficultés. Mais autant que je puisse en juger, je ne crois pas que nous soyons autorisés à admettre qu'il y ait eu des changements géographiques aussi énormes dans les limites de la période des espèces existantes. Il me semble que nous avons de nombreuses preuves de grandes oscillations du niveau des terres et des mers, mais non pas de changements assez considérables dans la position et l'extension de nos continents pour nous donner le droit d'admettre que, à une époque récente, ils aient tous été reliés les uns aux autres, ainsi qu'aux diverses îles océaniques. J'admets volontiers l'existence antérieure de beaucoup d'îles, actuellement ensevelies sous la mer, qui ont pu servir de stations, de lieux de relâche, aux plantes et aux animaux pendant leur migration. Dans les mers où se produit le corail, ces îles submergées sont encore indiquées aujourd'hui par les anneaux de corail ou atolls qui les surmontent. Lorsqu'on admettra complètement, comme on le fera un jour, que chaque espèce est sortie d'un berceau unique, et qu'à la longue, nous finirons par connaître quelque chose de plus précis sur les moyens de dispersion des êtres organisés, nous pourrons spéculer avec plus de certitude sur l'ancienne extension des terres. Mais je ne pense pas qu'on arrive jamais à prouver que, pendant la période récente, la plupart de nos continents, aujourd'hui complètement séparés, aient été réunis d'une manière continue ou à peu près continue les uns avec les autres, ainsi qu'avec les grandes îles océaniques. Plusieurs faits relatifs à la distribution géographique, tels par exemple que la grande différence des faunes marines sur les côtes opposées de presque tous les continents, les rapports étroits qui relient aux habitants actuels les formes tertiaires de plusieurs continents et même de plusieurs océans, le degré d'affinité qu'on observe entre les mammifères habitant les îles et ceux du continent le plus rapproché, affinité qui est en partie déterminée, comme nous le verrons plus loin, par la profondeur de la mer qui les sépare, tous ces faits et quelques autres analogues me paraissent s'opposer à ce que l'on admette que des révolutions géographiques aussi considérables que l'exigeraient les opinions soutenues par Forbes et ses partisans se sont produites à une époque récente. Les proportions relatives et la nature des habitants des îles océaniques me paraissent également s'opposer à l'hypothèse que celles-ci ont été autrefois reliées avec les continents. La constitution presque universellement volcanique de ces îles n'est pas non plus favorable à l'idée qu'elles représentent des restes de continents submergés, car si elles avaient été primitivement constituées des chaînes de montagnes continentales, quelques-unes au moins seraient, comme d'autres sommets, formées de granit, de schistes métamorphiques d'anciennes roches fossilifères ou autres roches analogues, au lieu de n'être que des entassements de matière volcanique. Je dois maintenant dire quelques mots sur ce qu'on a appelé les moyens accidentels de dispersion, moyens qu'il vaudrait mieux appeler occasionnels. Je ne parlerai ici que des plantes. On dit, dans les ouvrages de botanique, que telle ou telle plante se prête mal à une grande dissémination. Mais on peut dire qu'on ignore presque absolument si telle ou telle plante peut traverser la mer avec plus ou moins de facilité. On ne savait même pas, avant les quelques expériences que j'ai entreprises sur ce point avec le concours de M. Berkeley, pendant combien de temps les graines peuvent résister à l'action nuisible de l'eau de mer. Je trouvais à ma grande surprise que sur 87 espèces, 64 ont germé après une immersion de 28 jours, et que certaines résistèrent même à une immersion de 137 jours. Il est bon de noter que certains ordres se montrèrent beaucoup moins aptes que d'autres à résister à cette épreuve. 9 légumineuses, à l'exception d'une seule, résistèrent mal à l'action de l'eau salée. 7 espèces appartenant aux deux ordres alliés, les hydrophyllacées et les polémoniacées, furent toutes détruites par un mois d'immersion. Pour plus de commodité, j'expérimentais principalement sur les petites graines dépouillées de leurs fruits ou de leurs capsules. Or, comme toutes allèrent au fond au bout de peu de jours, elles n'auraient pas pu traverser de grands bras de mer, qu'elles fussent ou non endommagées par l'eau salée. J'expérimentais ensuite sur quelques fruits et sur quelques capsules, etc., de plus grosses dimensions. Quelques-unes flottèrent longtemps. On sait que le bois vert flotte beaucoup moins longtemps que le bois sec. Je pensais que les inondations doivent souvent entraîner à la mer des plantes ou des branches desséchées chargées de capsules ou de fruits. Cette idée me conduisit à faire sécher les tiges et les branches de 94 plantes portant des fruits mûrs, et je les plaçai ensuite sur l'eau de mer. La plupart allèrent promptement au fond, mais quelques-unes, qui, vertes, ne flottaient que peu de temps, résistèrent beaucoup plus longtemps une fois sèches. Ainsi, les noisettes vertes s'enfoncèrent de suite, mais sèches, elles flottèrent pendant 90 jours et germèrent après avoir été mises en terre. Un plant d'asperge, portant des baies mûres, flotta 23 jours. Après avoir été desséché, il flotta 85 jours. Et les graines germèrent ensuite. Les graines mûres de l'Hélociadium, qui allaient au fond au bout de 2 jours, flottèrent pendant plus de 90 jours une fois sèches et germèrent ensuite. Au total, sur 94 plantes sèches, 18 flottèrent pendant plus de 28 jours. Et quelques-unes dépassèrent de beaucoup ce terme. Il en résulte que 64 sur 87 des graines que je soumis à l'expérience germèrent après une immersion de 28 jours, et que 18 sur 94 des plantes à fruits mûrs, toutes n'appartenaient pas aux mêmes espèces que dans l'expérience précédente, flottèrent, après dessiccation, pendant plus de 28 jours. Nous pouvons donc conclure, autant du moins qu'il est permis de tirer une conclusion d'un si petit nombre de faits, que les graines de 14 sur 100 des plantes d'une contrée quelconque peuvent être entraînées pendant 28 jours par les courants marins sans perdre la faculté de germer. D'après l'Atlas physique de Johnston, la vitesse moyenne des divers courants de l'Atlantique est de 53 km environ par jour. Quelques-uns même atteignent la vitesse de 96 km et demi par jour. D'après cette moyenne, les 14 sur 100 des graines de plantes d'un pays pourraient donc être transportées à travers un bras de mer large de 1487 km jusqu'à dans un autre pays et germer si, après avoir échoué sur la rive, le vent les portait dans un lieu favorable à leur développement. M. Martins a entrepris subséquemment des expériences semblables aux miennes, mais dans de meilleures conditions. Il plaça en effet ses graines dans une boîte plongée dans la mer même, de sorte qu'elles se trouvaient alternativement soumises à l'action de l'air et de l'eau, comme des plantes réellement flottantes. Il expérimenta sur 98 graines, pour la plupart différentes des miennes. Mais il choisit de gros fruits et des graines de plantes vivant sur les côtes, circonstance de nature à augmenter la longueur moyenne de leur flottaison et leur résistance à l'action nuisible de l'eau salée. D'autre part, il n'a pas fait préalablement sécher les plantes portant leurs fruits, fait qui, comme nous l'avons vu, aurait permis à certaines de flotter encore plus longtemps. Le résultat obtenu fut que 18 sur 98 de ces graines flottèrent pendant 42 jours et germèrent ensuite. Je crois cependant que des plantes exposées aux vagues ne doivent pas flotter aussi longtemps que celles qui, comme dans ces expériences, sont à l'abri d'une violente agitation. Il serait donc plus sûr d'admettre que les graines d'environ 10% des plantes d'une fleur peuvent, après dessiccation, flotter à travers un bras de mer large de 1450 km environ et germer ensuite. Le fait que les fruits plus gros sont aptes à flotter plus longtemps que les petits est intéressant, car il n'y a guère d'autres moyens de dispersion pour les plantes à gros fruits et à grosses graines. D'ailleurs, ainsi que l'a démontré Alf de Candolle, ces plantes ont généralement une extension limitée. Les graines peuvent être occasionnellement transportées d'une autre manière. Les courants jettent du bois flotté sur les côtes de la plupart des îles, même de celles qui se trouvent au milieu des mers les plus vastes. Les naturels des îles de corail du Pacifique ne peuvent se procurer les pierres avec lesquelles ils confectionnent leurs outils qu'en prenant celles qu'ils trouvent engagées dans les racines des arbres flottés. Ces pierres appartiennent aux rois qui en tirent de gros revenus. J'ai observé que lorsque des pierres de forme irrégulière sont enchâssées dans les racines des arbres, de petites parcelles de terre remplissent souvent les interstices qui peuvent se trouver entre elles et le bois et sont assez bien protégées pour que l'eau ne puisse les enlever pendant la plus longue traversée. J'ai vu germer 3 dicotylédones contenus dans une parcelle de terre ainsi enfermée dans les racines d'un chêne ayant environ 50 ans. Je puis garantir l'exactitude de cette observation. Je pourrais aussi démontrer que les cadavres d'oiseaux flottant sur la mer ne sont pas toujours immédiatement dévorés. Or, un grand nombre de graines peuvent conserver longtemps leur vitalité dans le jabot des oiseaux flottants. Ainsi, les pois et les vesses sont tués par quelques jours d'immersion dans l'eau salée, mais à ma grande surprise, quelques-unes de ces graines, prises dans le jabot d'un pigeon qui avait flotté sur l'eau salée pendant 30 jours, germèrent presque toutes. Les oiseaux vivants ne peuvent manquer non plus d'être des agents très efficaces pour le transport des graines. Je pourrais citer un grand nombre de faits qui prouvent que des oiseaux de diverses espèces sont fréquemment chassés par les ouragans à d'immenses distances en mer. Nous pouvons en toute sûreté admettre que, dans ces circonstances, ils doivent atteindre une vitesse de vol d'environ 56 km à l'heure, et que quelques auteurs l'estiment à beaucoup plus encore. Je ne crois pas que les graines alimentaires puissent traverser intactes l'intestin d'un oiseau, mais les noyaux des fruits passent sans altération à travers les organes digestifs du dindon lui-même. J'ai recueilli en 2 mois dans mon jardin 12 espèces de graines prises dans les fientes de petits oiseaux. Ces graines paraissent intactes et quelques-unes ont germé. Mais voici un fait plus important. Le jabot des oiseaux ne sécrète pas de suc gastrique et n'exerce aucune action nuisible sur la germination des graines, ainsi que je m'en suis assuré par de nombreux essais. Or, lorsqu'un oiseau a rencontré et absorbé une forte quantité de nourriture, il est reconnu qu'il faut de 12 à 18 heures pour que tous les grains aient passé dans le gésier. Un oiseau peut, dans cet intervalle, être chassé par la tempête à une distance de 800 km. Et comme les oiseaux de proie recherchent les oiseaux fatigués, le contenu de leur jabot déchiré peut être ainsi dispersé. Certains faucons et certains hiboux avalent leur proie entière et, après un intervalle de 12 à 20 heures, dégorgent de petites pelotes dans lesquelles, ainsi qu'il résulte d'expériences faites aux Zoological Gardens, il y a des graines aptes à germer. Quelques graines d'avoine, de blé, de millet, de chènevis, de chanvre, de trèfle et de betterave ont germé après avoir séjourné de 12 à 24 heures dans l'estomac de divers oiseaux de proie. Des graines de betterave ont germé après un séjour de 62 heures dans les mêmes conditions. Les poissons d'eau douce avalent les graines de beaucoup de plantes terrestres et aquatiques. Or, les oiseaux, qui dévorent souvent les poissons, deviennent ainsi les agents du transport des graines. J'ai introduit une grande quantité de graines dans l'estomac de poissons morts que je faisais ensuite dévorer par des aigles pêcheurs, des cigognes et des pélicans. Après un intervalle de plusieurs heures, ces oiseaux dégorgeaient les graines en pelote ou les rejetaient dans leurs excréments et plusieurs germèrent parfaitement. Il y a toutefois des graines qui ne résistent jamais à ce traitement. Les sauterelles sont quelquefois emportées à de grandes distances des côtes. J'en ai moi-même capturé une à 595 km de la côte d'Afrique et on en a recueilli à des distances plus grandes encore. Le révérend R.T. Lowe a informé Sir C. Lyle qu'en novembre 1844, des essaims de sauterelles ont envahi l'île de Madère. Elles étaient en quantité innombrable, aussi serrées que les flocons dans les grandes tourmentes de neige, et s'étendaient en l'air aussi loin qu'on pouvait voir avec un télescope. Pendant 2 ou 3 jours, elles décrivirent lentement dans les airs une immense ellipse ayant 5 ou 6 kilomètres de diamètre, et le soir s'abattirent sur les arbres les plus élevés, qui en furent bientôt couverts. Elles disparurent ensuite aussi subitement qu'elles étaient venues et n'ont pas depuis reparu dans l'île. Or, les fermiers de certaines parties du Natal croient, sans preuve bien suffisante toutefois, que des graines nuisibles sont introduites dans leurs prairies par les excréments qui laissent les immenses vols de sauterelles qui souvent envahissent le pays. M. Will, m'ayant pour expérimenter ce fait envoyé un paquet de boulettes sèches provenant de ces insectes, j'ai trouvé, en les examinant à l'aide du microscope, plusieurs graines qui me donnèrent 7 graminées appartenant à 2 espèces et à 2 genres. Une invasion de sauterelles, comme celle qui a eu lieu à Madère, pourrait donc facilement introduire plusieurs sortes de plantes dans une île située très loin du continent. Bien que le bec et les pattes des oiseaux soient généralement propres, il y adhère parfois un peu de terre. J'ai, dans une occasion, enlevé environ 4 grammes, et dans une autre, 1,4 g de terre argileuse sur la patte d'une perdrix. Dans cette terre se trouvait un caillou de la grosseur d'une graine de vesce. Voici un exemple plus frappant. Un ami m'envoyait la patte d'une bécasse à laquelle était attaché un fragment de terre sèche pesant 58 centigrammes seulement, mais qui contenait une graine de Juncus buffonus, qui germa et fleurit. M. Swaysland, de Brighton, qui depuis 40 ans étudie avec beaucoup de soin nos oiseaux de passage, m'informe qu'ayant souvent tiré des hoche-queues, motacillés, des moteux et des tariers, saxicolés, à leur arrivée avant qu'ils se soient battus sur nos côtes, il a plusieurs fois remarqué qu'ils portent aux pattes de petites parcelles de terre sèche. On pourrait citer beaucoup de faits qui montrent combien le sol est presque partout chargé de graines. Le professeur Newton, par exemple, m'a envoyé une patte de perdrix, Cacabis rufa, devenue, à la suite d'une blessure, incapable de voler, et à laquelle adhérait une boule de terre durcie qui pesait environ 200 grammes. Cette terre, qui avait été gardée 3 ans, fut ensuite brisée, arrosée et placée sous une cloche de verre. Il n'enleva pas moins de 82 plantes, consistant en 12 motocotylédonées, comprenant l'avoine commune, et au moins une espèce d'herbe, et 70 dicotylédonées qui, à en juger par les jeunes feuilles, appartenaient à 3 espèces distinctes au moins. De pareils faits nous autorisent à conclure que les nombreux oiseaux qui sont annuellement entraînés par les bourrasques à des distances considérables en mer, ainsi que ceux qui émigrent chaque année, les millions de cailles qui traversent la Méditerranée, par exemple, doivent occasionnellement transporter quelques graines enfuies dans la boue qui adhèrent à leur bec et à leurs pattes. Mais j'aurai bientôt à revenir sur ce sujet. On sait que les glaces flottantes sont souvent chargées de pierres et de terre, et qu'on y a même trouvé des broussailles, des os et le nid d'un oiseau terrestre. On ne saurait donc douter qu'elles ne puissent quelquefois, ainsi que le suggère Lyle, transporter des graines d'un point à un autre des régions arctiques et antarctiques. Pendant la période glaciaire, ce moyen de dissémination a pu s'étendre dans nos contrées actuellement tempérées. Aux Açores, le nombre considérable des plantes européennes, en comparaison de celles qui croissent sur les autres îles de l'Atlantique plus rapprochées du continent, et leur caractère quelque peu septentrionaux pour la latitude où elles vivent, ainsi que l'a fait remarquer M. H. C. Watson, m'ont porté à croire que ces îles ont dû être peuplées en partie de graines apportées par les glaces pendant l'époque glaciaire. À ma demande, Sir C. Lyle a écrit à M. Hartung pour lui demander s'il avait observé des blocs erratiques dans ces îles, et celui-ci répondit qu'il avait en effet trouvé de grands fragments de granit et d'autres roches qui ne se rencontrent pas dans l'archipel. Nous pouvons donc conclure que les glaces flottantes ont autrefois déposé leur fardeau de pierre sur les rives de ces îles océaniques et que, par conséquent, il est très possible qu'elles y aient aussi apporté les graines de plantes septentrionales. Si l'on songe que ces divers modes de transport, ainsi que d'autres qui, sans aucun doute, sont encore à découvrir, ont agi constamment depuis des milliers et des milliers d'années, il serait vraiment merveilleux qu'un grand nombre de plantes n'eussent pas été ainsi transportées à de grandes distances. On qualifie ces moyens de transport du terme peu correct d'accidentels. En effet, les courants marins, pas plus que la direction des vents dominants, ne sont accidentels. Il faut observer qu'il est peu de modes de transport aptes à porter des graines à des distances très considérables, car les graines ne conservent pas leur vitalité lorsqu'elles sont soumises pendant un temps très prolongé à l'action de l'eau salée, et elles ne peuvent pas non plus rester bien longtemps dans le jabot ou dans l'intestin des oiseaux. Ces moyens peuvent toutefois suffire pour les transports occasionnels à travers des bras de mer de quelques centaines de kilomètres, ou d'île en île, ou d'un continent à une île voisine, mais non pas d'un continent à un autre très éloigné. Leur intervention ne doit donc pas amener le mélange des flores de continents très distants, et ces flores ont dû rester distinctes comme elles le sont en effet aujourd'hui. Les courants, en raison de leur direction, ne transporteront jamais des graines de l'Amérique du Nord en Angleterre, bien qu'ils puissent emporter, et qu'ils emportent en effet, des Antilles jusque sur nos côtes de l'Ouest où, si elles n'étaient pas déjà endommagées par leur long séjour dans l'eau salée, elles ne pourraient d'ailleurs pas supporter notre climat. Chaque année, un ou deux oiseaux de terre sont chassés par le vent à travers tout l'Atlantique, depuis l'Amérique du Nord jusqu'à nos côtes occidentales de l'Irlande et de l'Angleterre. Mais ces rares voyageurs ne pourraient transporter de graines que celles que renfermerait la boue adhérant à leurs pattes ou à leur bec, circonstance qui ne peut être que très accidentelle. Même dans le cas où elle se présenterait, la chance que cette graine tombât sur un sol favorable et arrivât à maturité serait bien faible. Ce serait cependant une grave erreur de conclure de ce qu'une île bien peuplée comme la Grande-Bretagne n'a pas, autant qu'on le sache, et ce qu'il est d'ailleurs assez difficile de prouver, reçu pendant le cours des derniers siècles, par l'un ou l'autre de ces modes occasionnels de transport, des immigrants d'Europe ou d'autres continents, qu'une île pauvrement peuplée, bien que plus éloignée de la terre ferme, ne put pas recevoir, par de semblables moyens, des colons venant d'ailleurs. Il est possible que sur 100 espèces d'animaux ou de graines transportées dans une île, même pauvre en habitants, il ne s'en trouva qu'une assez bien adaptée à sa nouvelle patrie pour s'y naturaliser. Mais ceci ne serait point, à mon avis, un argument valable contre ce qui a pu être effectué par des moyens occasionnels de transport dans le cours si long des époques géologiques, pendant le lent soulèvement du Nil et avant qu'elle fût suffisamment peuplée. Sur un terrain encore stérile, que n'habite aucun insecte ou aucun oiseau destructeur, une graine, une fois arrivée, germerait et survivrait probablement, à condition toutefois que le climat ne lui soit pas absolument contraire.